Évangile selon Luc, chapitre 22, versets 39 à 46. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez, afin de ne pas entrer en tentation ». Puis, il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il se releva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez afin de ne pas entrer en tentation. » Amen. Nous sommes à la fin du ministère de Jésus. C'est quasiment 3 ans et demi d'une grande intensité, avec les foules, avec les miracles, avec l'enseignement riche qu'il a pu donner à ses disciples et à tous ceux qui voulaient bien l'entendre. Ces 3 ans et demi, c'est des moments très denses, également qui sont pleins de fatigue, parce que le Fils de l'homme n'avait pas un endroit où reposer sa tête, plein de fatigue spirituelle, et nous pouvons penser qu'à ce moment-là, Jésus sait qu'il est au bout de sa course et que son corps comme son âme sont bien lourds. Ces 3 ans et demi, ça a été 3 ans et demi d'une grande intensité parce qu'ils ont été pleins d'amour, ils ont été pleins d'admiration de la part des hommes et des femmes qu'il a guéris, mais également pleins de haine, de rejet et d'abandon qui ont émaillé tous ces moments, tous ces instants. Et là, nous sentons, à la lecture de ce passage, que nous sommes à un moment clé du ministère de notre Maître. Vous savez, il en va de même dans notre vie. Il y a des moments que nous savons être des moments clés. Il y a des instants que nous savons être des moments clés, où nous avons devant nous, comme dira Dieu dans l'Ancien Testament, la bénédiction et la malédiction, où nous avons ce qui est bien et où nous avons ce qui est mauvais. Encore faut-il être suffisamment lucide, encore faut-il avoir suffisamment de force, parce que nous connaissons les choses, nous le verrons tout à l'heure, pour rentrer dans le chemin, dans le plan que Dieu veut, que notre Dieu a voulu pour nous. Il y a des moments clés dans notre vie. Jésus a déjà connu la tentation. Nous le voyons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4 notamment, lorsque par 3 fois le diable va venir vers lui avec plusieurs subterfuges de manière à le faire tomber et à entacher la personne parfaite qu'il était et qu'il est. Mais ici c'est autre chose, ce n'est plus un combat contre l'ennemi de nos âmes en première ligne, mais c'est un combat contre sa chair, un combat contre sa propre volonté, un combat contre son humanité. Certes, ce combat est attisé, on peut le penser, par les forces ténébreuses, est attisé par toutes ces choses et par l'ennemi de nos âmes qui voulait faire tomber le Fils de Dieu, qui voulait le faire reculer. Mais avant tout, devant, c'est la perspective qui est devant lui qui risque de faire reculer Jésus. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, mais non pas ma volonté, la tienne. C'est ces peurs qui remontent à la surface, ce sont ces angoisses, c'est la tentation, et je l'ai mis sur mes notes d'une manière un peu lapidaire, de vivre pour lui au moins une fois. C'est la tentation d'échapper à la douleur, c'est la tentation d'échapper à la croix, c'est la tentation également de repousser à demain le baiser de Judas et l'entrée des soldats dans le jardin qui vont venir le condamner, qui vont venir le livrer aux mains des autorités afin qu'il soit crucifié. Je dirais que Gethsémané, c'est plus qu'un lieu, c'est plus qu'un jardin où Jésus aimait être. Mais Gethsémané, c'est un moment. C'est un moment que le Maître a connu et que nous connaîtrons. Le disciple accompli n'est pas plus que le Maître, mais nous marchions sur les traces de Jésus et des Gethsémané, nous en connaîtrons tous à des mesures différentes, selon des modèles différents. Certes, nous ne connaîtrons peut-être pas l'intensité que Jésus a pu connaître, mais nous aurons devant nous ses choix, nous aurons devant nous ses luttes en nous disant « Est-ce que je fais bien de rester? Est-ce que je fais bien de croire? Est-ce que je fais bien de marcher comme ça? Est-ce que je fais bien de suivre Jésus? Est-ce que ce ne serait pas plus facile finalement de reculer? Est-ce que j'ai bien fait de prendre cette résolution? Est-ce que j'ai bien fait de m'engager dans ce chemin? Est-ce que je ne ferais pas mieux de reculer? » C'est exactement les pensées qui viennent au cœur de Jésus. S'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Gethsémané, c'est plus qu'un lieu, c'est un moment que nous aurons. Et ce que je vous propose ce matin, c'est de décortiquer un petit peu ce moment de manière à voir de quoi il est composé et comment Jésus l'a surmonté et de ce fait nous fait surmonter également ces moments de tentation où le choix difficile est devant nous. Gethsémané, premièrement, c'est le moment où nous sommes seuls face à nos choix. Jésus n'était pas seul physiquement, puisque trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, l'avaient accompagné. Mais simplement, ils étaient un petit peu plus loin, à quelques mètres, à la distance d'un jet de pierre. En se retournant, peut-être que Jésus pouvait les voir, et à quelques reprises, il va les voir endormis même. Ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas forcément là pour le soutenir, mais pour apprendre. C'est Jésus qui leur a dit de venir. Parce qu'il sait que dans ce combat, il va être seul. Il est seul face à lui-même et à la mission qui est la sienne. Et malgré la présence de ses disciples, seul Jésus peut faire le bon choix. C'est souvent comme ça dans nos vies. On a toutes sortes d'hommes et de femmes qui nous conseillent. Mais en définitive, qui est-ce qui choisit ? C'est nous. On a les Écritures. On a le conseil des frères et sœurs. On a le conseil de notre éducation, de notre conscience. Mais en définitive, il y a des moments où nous avons beau connaître les choses, c'est à nous de les mettre en pratique. Nous savons ce qu'il convient de faire face à la tentation, mais la question, c'est de savoir comment nous réagirons. Nous savons que nous serons tentés, nous avons déjà été tentés. Parfois, nous sommes même tombés. Mais là, en l'occurrence, ses disciples ne peuvent rien faire pour lui. Jésus est seul face à son choix. Il le sait et ne leur demande pas de prier pour lui, mais il leur demande de prier pour eux. Parce que plus tard, eux-mêmes auront leur propre Gethsémané. L'exemple le plus criant, c'est l'apôtre Pierre. Alors qu'il aurait dû être à genoux en train de prier afin de lui-même de ne pas tomber en tentation parce que Jésus l'avait averti de ce qui allait se produire, Pierre va s'endormir. Mes frères et sœurs, ce que je voudrais laisser sur votre cœur dans cette première partie, c'est que Gethsémané se prépare avant. Ce n'est pas lorsque l'on est à Gethsémané que l'on peut s'en sortir. Ce n'est pas lorsque l'on est devant la tentation que l'on peut s'en sortir. Mais c'est parce qu'on aura préparé nos cœurs, parce que l'on aura structuré nos vies, parce que l'on les aura bâtis sur des fondements solides, parce qu'on aura une intimité avec Jésus, que alors nous pourrons vaincre notre Gethsémané. Ce n'est pas lorsque nous sommes face à la tentation que nous pourrons nous en sortir seuls, mais c'est parce que nous aurons cette intimité. Imaginez un soldat qui va au combat en laissant son armure derrière lui, en disant « Oh, de toute manière, je n'ai pas besoin de m'entraîner, je n'ai pas besoin de combattre, je n'ai pas besoin d'armure, je n'ai pas besoin d'armes, on verra bien sur place. » Il y a fort à parier qu'il y ait quelques soucis. Parfois, nous pouvons être comme ce soldat quelque peu inconscient en disant « On verra bien, le Seigneur est fidèle. » C'est vrai. Mais il n'en reste pas moins que nous voyons un delta entre Pierre et Jésus. C'est que Pierre n'avait pas encore cette capacité, cette intimité avec Dieu qu'il aura ensuite et qu'il retranscrira dans sa première épître lorsqu'il dira « Veillez et priez, car le diable est tel un lion rugissant qui cherche à vous dévorer. » Gethsémané se prépare avant. Gethsémané se prépare avant parce que c'est le lieu finalement où les masques tombent. La religiosité montre ses faiblesses. Il n'est plus question de faire de beaux sourires et de chanter de jolis chants, mais il est question de vivre. Il est question de rester fidèle. Les apparences s'effondrent. On est seul face à nous-mêmes et parfois l'image que l'on reflète nous surprend quelque peu. Le phare est enlevé. Il ne s'agit plus de jouer mais de vivre l'obéissance. Ce n'est plus un concept abstrait, mais c'est quelque chose qui devient profondément concret. Jésus dira prier à ses disciples, prier afin de ne pas tomber en tentation. C'est l'un des éléments du Notre Père. Il ne faut pas l'oublier. Ce Notre Père qui n'est pas une prière à connaître par cœur, à réciter par cœur, mais qui nous détaille les différents sujets sur lesquels nous devons rester vigilants et autour desquels nous devons arc-bouter notre vie de prière. Notre Père, garde-nous de la tentation. Je crois que cela doit être un de nos sujets de prière. Seigneur, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais s'il te plaît, prépare-moi à la tentation et aux tentations qui surviendront, afin que je sache les discerner, afin que je sois prêt à les assumer. Fortifie ma foi. Ancre-la, élargis mon amour, afin que, ancre-moi dans ton amour, afin que je t'aime plus que mes propres passions. S'il te plaît, prépare-moi à ce qui viendra demain. C'est autre chose que la prière banale que l'on peut parfois faire pour, comme je l'ai dit de temps en temps aux jeunes, bénis papa, bénis maman, bénis mon petit frère, hein, et bénis la nourriture, amen. Mais c'est une conscience un petit peu plus loin, en disant que, eh bien, celui qui est debout prenne garde de tomber. Gethsémané se prépare avant. Jésus avait préparé son Gethsémané. Pierre s'était endormi dans la poussière. Lorsque Gethsémané sera devant nous, serons-nous prêts? Serons-nous prêts? Ne le faisons pas avec peur, en se disant « Boudu, boudu, si j'ai un Gethsémané demain, comment est-ce que ça va se passer ?» Mais faisons-le avec foi, avec confiance. En sachant que notre Dieu, en sachant que notre Père, en sachant que Jésus lui-même, et nous le verrons tout à l'heure en conclusion, eh bien, nous fait entrer dans cette démarche de foi. On peut compter sur lui. Si nous sommes sérieux de notre côté, Jésus sera sérieux du sien. Là où il a été seul, nous pouvons compter sur lui et sur sa présence. Deuxième chose, Gethsémané, c'est un lieu sombre où tout paraît noir. À la lecture de ce texte, c'est l'impression que cela m'a donnée. On a l'impression que Jésus, finalement, n'a plus vraiment de perspective. On a l'impression que seule la peur est en train de le guider. Tout est noir. Il n'y a plus d'avenir. Il n'y a plus de passé. Il n'y a plus de présent. Pourtant, Jésus avait et a toujours conservé une vision complète du plan du Père. Il connaît la gloire qui est attachée à son pèlerinage sur terre. Il sait quel est le prix de sa vie. Il sait quel est le prix de sa mission. Il savait comment elle devait se terminer. Il savait ce qu'elle devait être. De la même manière, nous connaissons la portée de notre pèlerinage sur cette terre. On souffre, certes. Mais nous savons que la gloire éternelle nous attend. Et c'est ça qui réjouit notre cœur. Il croit dans les promesses du Père. Il sait que le Père ne l'abandonnera pas et sera ressuscité. Mais pourtant, à ce moment-là, à ce moment précis, on a l'impression que tout cela se brouille, que tout cela devient flou. Ça ne vous rappelle pas des moments de votre vie? Comme je l'ai eu l'occasion de le dire à certains d'entre vous, c'est ces moments où on a tête dans le sac. Où finalement, il n'y a plus aucune perspective qui est devant nous. On ne voit que du noir. Et tout ce que l'on voit, c'est nos problèmes, c'est nos difficultés. C'est nos soucis, c'est nos tracas, en se disant « mais comment est-ce que je vais faire pour sortir de ce pétrin-là » Et là, tout tourne en boucle dans notre tête, tout revient sans cesse dans notre tête, et on échafaude toutes sortes d'hypothèses. Mais finalement, on oublie et on perd de vue les choses essentielles. Notre passé devient flou, puisque l'on ne se souvient plus que Jésus nous a sortis de situations bien plus dures et bien plus compliquées que celles que nous traversons aujourd'hui. Notre présent devient flou, devient noir, parce qu'on ne se souvient même plus, on se souvient plus que Jésus reste et demeure avec nous, et qu'il vit en nous par son esprit, que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Notre futur et les perspectives qui sont devant nous sont également noires, et on n'arrive plus à discerner les œuvres bonnes que notre Dieu a préparées pour nous. On oublie qu'il a marché devant nous. Mais alors que tout est sombre, Jésus va s'accrocher à trois choses essentielles que l'on retrouve dans sa prière. La première de ces choses que nous devons graver dans notre cœur, et mon frère, ma sœur, si c'est sombre dans ta vie, si la tête est dans le sac et que le sac est fermé à double tour, eh bien regarde à ces trois choses. Premièrement, ce que Dieu veut, c'est le meilleur. Jésus savait que ce que le Père voulait, c'était le meilleur. Non pas ma volonté, mais la tienne. Le meilleur pour le Fils comme pour nous, c'est ce que Dieu veut. Et c'était, en l'occurrence, la volonté du Père était bonne pour le Fils comme pour nous, même des générations plus tard. C'est peut-être une banalité, un cliché, mais ça fait du bien de le repasser sur notre cœur. Mon frère, ma sœur, mon ami, ce que Dieu veut, c'est bon pour toi. toutes choses. Ah, qu'est-ce que je l'aime ce verset. Mais sous le toutes choses, on peut émettre les bonnes comme les mauvaises, malheureusement. Hein. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Il ne faut pas oublier la deuxième partie, hein, de manière à être équilibré. Toutes choses. Quand je suis dans la volonté de Dieu, c'est bon pour moi. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si fois les choses eh bien, deviennent difficiles dans mon couple, dans mon travail, dans ma vie de famille, même dans mon voisinage, peu importe, toutes choses. À partir du moment où je veille à rester intègre et droit devant Dieu, toutes choses concourent à mon bien. La volonté du Père était bonne pour le Fils, comme elle était bonne pour nous et comme elle le demeure aujourd'hui. Deuxième chose à laquelle Jésus s'est accroché, c'est qu'il est serviteur du Père et de tous. Non pas ma volonté, mais la tienne. Je suis venu pour te servir. Plusieurs versets l'attestent. Il est venu pour servir et non pour être servi. Marc chapitre 10, verset 45, il dira « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Il est venu pour servir. Dites-moi, on ne serait pas un petit peu serviteur, nous aussi ? Waouh, il y en a deux dans la salle, cool. On ne serait pas un petit peu serviteur sur les bords ? Et ce qui compte, c'est ce que le maître veut. C'est ce que le maître veut. Jésus a pu tenir parce qu'il ne s'était pas fait calife à la place du calife. Il ne s'était pas fait maître à la place du maître. Mais qu'il restait assujetti au Père. À partir du moment où j'oublie que je suis assujetti au Père et que je me place même pas au-dessus mais sur un rapport d'égalité avec lui, en oubliant cette notion de dire « Seigneur, je suis sauvé pour servir ». Tu m'as appelé ami, certes, parce que tu m'as révélé toutes les choses eh bien que le Père t'avait révélées. Mais Seigneur, je n'oublie pas que je suis tout de même ton serviteur et que je dépends de toi. L'apôtre Paul le dira lorsqu'il écrira aux différentes églises, Paul, serviteur. Et littéralement dans le grec, vous le savez, c'est esclave. Esclave. Même le terme ministre, qui est un terme pompeux de nos jours, est en réalité le mot qui était utilisé pour les galériens les plus bas placés qui ramaient dans les galères à l'endroit où ça sentait le plus mauvais. Jésus avait conscience qu'il était serviteur. Il a conscience de sa mission depuis toujours. Déjà à l'âge de 12 ans, alors qu'il se fait rouspéter parce qu'il avait fugué, il dira à sa mère « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Alors les jeunes, évitez de faire ça, d'accord ? Hein ? Mais déjà, il avait conscience du plan. Déjà, il avait conscience qu'il était serviteur. Vous qui êtes jeunes convertis, mettez ça, gravez ça bien dans votre cœur. Nous sommes serviteurs. Vous qui avez des années de conversion, nous sommes serviteurs. Serviteurs les uns des autres et serviteurs du Dieu, du Fils, du Dieu très haut. Amen. Nous sommes des serviteurs. Et à partir de ce moment-là, quand tout cela est bien intégré dans notre cœur, dans notre patrimoine, dans notre génome spirituel, alors, eh bien, lorsque notre Gethsémané vient, nous pouvons dire comme le Seigneur, Père, je ne suis que ton serviteur, alors que ce soit ta volonté, s'il te plaît, qui soit faite. Et le troisième axe qui lui a permis de tenir bon dans cette prière, c'est qu'il va se raccrocher, bien sûr, à la communion qu'il avait avec le Père. Ce qui m'a marqué, et je ne sais pas si vous avez vu l'ordre des versets, c'est qu'un ange va venir et va le fortifier, ce qui est déjà extraordinaire. Mais Jésus va continuer à prier instamment. Il ne va pas se contenter du bien que va lui apporter l'ange d'une manière sporadique. Mais ce que Jésus veut, c'est la conviction du Père, c'est quelque chose qui vient du Père. On retrouve le même schéma avec le prophète Élie. Lorsqu'il était sous son genêt, complètement découragé, et que là, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire, il va lui envoyer un ange cuisinier. C'est un ange extraordinaire, fabuleux, que nous aimerions tant avoir chez nous. Un ange cuisinier qui va lui faire un petit gâteau. Le premier part, eh bien, ne va pas suffire, parce qu'Élie était très gourmand, mais il va lui en faire un deuxième. Et là, Élie va le manger, il va marcher pendant 40 jours. Bénédiction spontanée. Et ensuite, il va se retrouver où ? Dans une caverne, dans une grotte. Et il va rentrer dans sa grotte. Et là, qu'est-ce qu'il va faire sortir Élie de sa grotte ? Ce n'est plus un nouveau gâteau, bien qu'il devait être excellent, il y avait peut-être du rab qui traînait quelque part. Au bout de 40 jours, il aurait été quelque peu sec, peut-être. Mais c'est le roi, c'est le souffle de Dieu. C'est Dieu qui va passer dans ce vent doux et léger, qui va le faire sortir de sa grotte et qui va lui donner cette nouvelle mission. Élie va oindre Jéhu, fils de Nimshi. Les anges, c'est bien. Le Père, c'est mieux. On est entouré d'anges. Tous les degrés, hein. Il y a ceux qu'on voit et puis il y a ceux qu'on ne voit pas. Tournez-vous, vous allez voir plein d'anges. Allez-y, tournez-vous. Regardez, il ne manque plus que les auréoles. Hein ? Dieu, c'est mieux. Dieu, c'est mieux. Jésus ne va se relever qu'une fois sa prière au Père terminée. L'ange l'a fortifié. Mais Jésus est resté à prier jusqu'à ce qu'il y ait une conviction dans son cœur qui ait été déposée. Il va persévérer. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, le dira, moi, à deux reprises, dans l'épître aux Romains, au chapitre 12 et au verset 12, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Aux Colossiens, au chapitre 4 et au verset 2, il dira, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Ce n'est pas prier un petit peu quand c'est difficile, mais persévérer dans la prière. Et nous voyons que Jésus va le faire avec une intensité visible et je dirais même palpable, puisque des grumeaux de sang vont perler de son front. C'est tout son être qui est tendu vers cela. Ce n'est pas une prière du bout des lèvres, mais c'est la volonté farouche d'un fils qui veut faire la volonté de son père, mais qui sait qu'au-dedans de lui, il y a ce combat qui est là. Je veux le faire, mais je n'y arrive pas. Est-ce que vous n'avez pas poussé ce cri parfois ? Je veux le faire. L'apôtre Paul poussera un cri similaire en disant « Je voudrais faire le bien, mais je n'y arrive pas et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. » Est-il converti ou pas ? Nous n'ouvrions pas le débat. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus voulait, d'une manière farouche, faire la volonté du Père et qu'il ne s'est pas relevé. Il ne s'est pas contenté d'une priorette, mais il a lutté. Et une fois que Jésus s'est relevé, on ne le voit plus retourner à genoux et faire demi-tour, mais est allé jusqu'au bout. Parce que la conviction était farouchement attachée dans son cœur. Elle venait du Père. Elle ne venait pas d'une parole d'ange, mais elle venait du Père. Elle venait du Père. Et elle avait été acquise dans l'intimité. Jésus a pu tenir dans ce choix parce qu'il a prié instamment, parce qu'il savait que le Père voulait le meilleur. Et parce qu'il avait toujours conscience qu'il était serviteur du Père. Frères et sœurs, dans nos Gethsémané, gardons ces trois axes. Nous en traverserons. J'ai connu des hommes et des femmes parmi vous qui en ont traversé, qui en sont sortis vainqueurs, parce qu'ils se sont attachés à Jésus. Conservons ces trois axes. Si demain la tête va dans le sac, pense à ces trois points. Et on voit les conséquences, hein. Le rapport Pierre-Jésus est complètement différent. Jésus se relève. J'aime bien ce choc, ce contraste avec Jésus qui se relève et Pierre qui dort dans la poussière. C'est marquant. Et il y a cette petite parenthèse qui m'a toujours étonné et fait réfléchir, c'est que les disciples, ils se sont endormis de quoi ? Ils se sont endormis de tristesse. Endormis de tristesse. Voir leur maître dans cet état-là, peut-être, on ne sait rien. Ou alors une langueur qui était due à ce sentiment, parfois un petit peu diffus, que Jésus allait disparaître. On ne le sait pas exactement et je ne voudrais pas épiloguer. Mais ils se sont endormis de tristesse. Un homme a failli s'endormir de tristesse dans l'Ancien Testament, c'est le prophète Samuel. Lorsque Saül bien a été déchu, qu'est-ce qu'a fait Samuel ? Il est rentré dans sa maison. On ne sait pas combien de temps. Et un jour, l'Éternel est venu frapper à sa porte. Il lui dit « Samuel, Samuel, cesse de pleurer sur Saül. Remplis ta corne d'huile et va oindre David. Va oindre. Va dans la maison de Samuel et va oindre celui que je te montrerai, etc. » Il a cessé de pleurer sur Saül. On aura tous des sujets de tristesse. Quel qu'il soit. Mais je pense que, au bout d'un moment, je vous le dis de temps en temps, mais la souffrance comme la tristesse peuvent devenir des amis. Des sentiments dans lesquels on commence à se complaire quelque peu. Ils nous tiennent chaud. Ils nous donnent des tas d'excuses. Et il se passe dans nos cœurs ce qui se passe dans le cœur des disciples, c'est que petit à petit, on s'endort de tristesse. Une forme de mornitude vient dans notre âme, de langueur charnelle et humaine vient s'installer en nous. Est-ce qu'on peut le qualifier de dépression ? Je ne pense pas, de déprime peut-être. Finalement, on se sent moins bien. C'est plus difficile de prier. On perd un petit peu de notre éclat. Ou alors on met un peu plus de fard de religiosité et de fard de rire. Mais au fond, on est endormi, on est dans la poussière. On est endormi de tristesse. Réveille-toi. Levez-vous, dira Jésus. Levez-vous et priez. Veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. Lève-toi. Toi qui es triste depuis tant d'années dans ton cœur. Toi qui t'es emmuré derrière, qui est rentré dans ta maison, dans ta grotte, dans un puits de tristesse, à repasser sans arrêt eh bien, ces douleurs, ces souffrances. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi et approche-toi de ton Dieu. Lève-toi et approche-toi de ton Dieu. Et sa grâce viendra et te relèvera. Troisième point, je l'aime beaucoup celui-là. Gethsémané, c'est le lieu où la théorie devient pratique. On en sait des choses. Nous, les enfants de chrétiens, on est tombés dans la marmite quand on était petits. On a commencé à nous bercer avec la Genèse et on a fini de grandir. On finissait le biberon avec l'Apocalypse. On en sait des choses. Il n'y a aucun souci. Si on nous faisait remplir quelques copies doubles, je suis sûr qu'on aurait de bonnes notes. Le problème, c'est lorsqu'il faut passer aux actes. Jésus a toujours su ce qu'il adviendrait de lui. Toujours. Il savait qu'à un moment ou un autre, il devait souffrir. Il allait devoir être cet agneau. Il savait qu'il serait seul, il savait qu'il serait abandonné de tous, parce que la prophétie du livre de Zacharie était très claire, ils frapperont le berger, et les brebis partiront. Il savait qu'il serait l'homme de douleur habitué à la souffrance. Il le savait. Et il a mis un point d'honneur à accomplir toutes les prophéties, les unes après les autres. Jusqu'au moment où il a dit « Tout est accompli ». Mais là, il a supporté une certaine dose, mais vient le moment où L'insupportable doit arriver. Il va falloir qu'il franchisse le pas. Le dernier, mais le plus grand. Celui du don de sa vie. Il y a bien des choses que l'on sait. Et si jamais on devait faire la liste de tout ce que l'on sait, qu'il faudrait que l'on fasse et que l'on ne fait pas. Pourtant, Jésus avait plein d'excuses. Oui, mais là, ils vont m'abandonner, les méchants. Jésus va quand même y aller. J'ai jamais commis de péché, Père. Justement, offre-toi. Jésus savait. Je crois qu'il ne faut pas non plus tomber dans la caricature. C'est normal que certaines choses nous fassent peur. L'apôtre Pierre écrira à la diaspora, à l'église persécutée et éparpillée, au chapitre 4 et au verset 1 de sa première épître. « Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Armez-vous de la pensée de souffrir. Drôle de manière d'aborder la vie chrétienne. Mais si on le fait, si l'apôtre Pierre l'écrit, c'est parce qu'on marche à la suite de Jésus. Et que notre maître nous accompagnera et sera avec nous. La perspective de certains combats et de ses conséquences peuvent nous effrayer. C'est certain. Mais je crois que nous devons garder dans notre cœur et avoir cette certitude profondément ancrée que oui, nous serons amenés à vivre ce que nous savons en théorie, en pratique. Peut-être que demain, quelqu'un abordera et vivra en théorie ce que je suis en train d'apporter, en pratique, pardon, ce que je suis en train d'apporter aujourd'hui en théorie. De la même manière qu'un enfant, un écolier, on lui apprend à faire des fractions et puis un jour, il doit réellement s'en servir. Et là, il s'aperçoit qu'en fait, il aurait mieux fait d'écouter son prof de maths. Mais si cela est valable pour les choses négatives, c'est également valable pour les choses que l'on peut considérer comme positives. Dans la Bible, il y a plein de choses que l'on vit peut-être un peu trop en théorie. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. L'évangile est capable de changer des vies. L'évangile est capable de guérir des cœurs. L'évangile est capable de guérir des corps. Ce n'est pas des concepts théologiques. Mais c'est la vérité, c'est l'essence même. On le sait. Et parfois, je ne sais pas, peut-être que ça reste là, mais que ça a du mal à descendre là. Ou ça reste coincé entre les deux, on ne sait pas trop où ça se situe. Et Gethsémané, ça nous montre le mauvais côté de la médaille. Oui, l'obéissance va devoir se concrétiser d'une manière visible et tangible, mais ça nous éclaire également que il y a des choses dans les Écritures, des promesses que Dieu a faites, qui n'ont pas lieu de rester théorie. Parce que la foi, c'est quelque chose qui se vit. C'est quelque chose qui se matérialise dans notre quotidien. Encore heureux. Sinon, qu'est-ce qu'on serait triste ? En conclusion, 6 petits points. Vous aimez bien quand je fais ça, j'en suis sûr. Si Gethsémané est un lieu ou un moment de souffrance que nous traverserons tous à différentes échelles, et selon des modèles différents, il ne faut jamais oublier que c'est surtout un moment de victoire. Je l'ai présenté volontairement dans cette première partie, dans cette partie de manière quelque peu négative, mais n'oublions jamais que c'est un moment de victoire. Premièrement, parce qu'on voit le ministère des anges qui a fortifié Jésus. Et nous pouvons croire alors cette assurance, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des anges invisibles qui nous protègent, qui nous gardent, qui veillent sur ceux pour lesquels nous prions, j'en suis convaincu. mais autour de nous, nous avons toutes sortes d'anges qui sont capables de nous donner une épaule, qui sont capables de nous donner de l'affection lorsque nous en avons besoin. Deuxièmement, c'est un moment de victoire, c'est un lieu de victoire parce que la fidélité du Père a encore été manifestée. Le Fils a été fortifié. Vous savez, lorsque il y a ce passage des Épîtres que j'aime tout particulièrement, et lorsque l'apôtre Paul dit « Faites en toutes circonstances, faites connaître à Dieu par des prières, actions de grâce, des supplications, vos besoins, point. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La première marque de fidélité du Père, ce n'est pas qu'il exauce nos prières, mais c'est qu'il garde nos cœurs et nos esprits dans la paix. Et nous, on saute une étape. Et là, on le voit très bien, Gethsémané. Le Fils a été fortifié. A été fortifié. Et on peut penser qu'il a connu la paix du Père. Troisièmement, moment de victoire, parce qu'il n'y a pas de croix sans Gethsémané. Et pas de salut sans la croix. Et j'aurais envie de le rapprocher un petit peu avec ce texte de Paul aux Galates, lorsqu'il explique que nous devons crucifier la chair. Non pas de manière physique, hein, de grâce, mais de manière spirituelle. Et Gethsémané, c'est surtout quoi? C'est surtout une résolution. C'est ce moment où Jésus a dit « Je vais jusqu'au bout et je m'y tiens. Je ne reculerai pas. Je ne reculerai plus. Je vais jusqu'au bout et je m'y tiens. » Et là, cette résolution a été fortifiée par le Père lui-même, ce qui a permis à Jésus de vivre la croix pleinement et entièrement, conformément à ce que le Père avait décidé. Quatrièmement, Jésus a été vainqueur et nous entrons dans cette victoire. Et en gros, sur mes notes, j'ai mis pas un seul de nos Gethsémanés ne sera au-dessus de nos forces. Et je vous renvoie à ce que Paul écrira aux Corinthiens. Aucune épreuve ou aucune tentation, en grec, c'est le même mot, qui vous sera survenue ne sera au-dessus de vos forces. Mais avec cette tentation ou cette épreuve, eh bien, l'issue est déjà préparée. Pas un seul de nos Gethsémanés ne sera au-dessus. Ce que tu es en train de traverser, tu as la force et le Seigneur te donnera la force de le traverser. Il est passé devant. Cinquièmement, c'est la victoire de l'amour du Fils pour le Père. Et nos Gethsémanés à nous, ce sera une victoire de notre amour pour notre Sauveur. C'est l'amour qui conduit nos vies. Ce n'est pas l'intérêt, on n'est pas des mercenaires. Mais on suit Jésus pour la simple et bonne raison. C'est que eh bien nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Et comme je vous le dis, l'amour, ça se montre. Sixièmement, et ça sera le dernier, c'est un lieu de victoire sur nos peurs qui nous tétanisaient alors que nous savons que nous devons avancer. Peuple d'Israël, pour avoir eu peur, a tourné 40 ans dans un désert. Jésus a eu peur. Jésus a été angoissé jusqu'à la mort. Mais il a avancé. Il a avancé. Alors mon frère, ma sœur, peut-être traverses-tu un Gethsémané, peut-être en traverseras-tu demain, que ces quelques clés bien simples eh bien, puisse être en secours, puisse être en aide. Et en tout cas, sois assuré de la présence de ton Seigneur dans tous ces moments compliqués. Que ta grâce te vienne en aide, dans le nom de Jésus. Amen.